Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
Que le Seigneur soit glorifié pour ces temps qu'il a pensé nous accorder aujourd'hui. Et il nous a vraiment ramenés dans sa présence. Et s'il nous a ramenés dans sa présence, ce n'est que pour notre bien. Car la Bible nous dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc à tous ces gens-là que Dieu a appelés selon son dessein, il dispose toujours de bonnes choses à leur faveur, aussi bien longtemps que ces gens aussi demeureront toujours fidèles à lui. Aussi bien longtemps que ces gens regarderont toujours à lui, Dieu aussi vraiment disposera de bonnes choses, de merveilleuses choses pour leur vie. Amen. Donc voilà, si nous sommes là, c'est parce que notre Dieu nous aime beaucoup et il a des plans merveilleux pour nous. Il prépare de bonnes choses pour nous, car il a dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc voilà, Dieu, dans son amour, il aime toujours le bien de l'homme. Dieu n'aime pas le malheur de l'homme, Dieu n'aime pas les souffrances de l'homme, mais il aime toujours le bonheur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, on nous dit le monde au singulier, pour pouvoir faire voir que là, quand on parle le monde, on parle de l'humanité tout entière. Donc, car Dieu a tant aimé tous les hommes, tous les hommes, c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit que car Dieu a tant aimé quelques personnes, mais la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Donc, nous comprenons par là que le plan de Dieu pour l'homme, c'est un plan de paix, c'est un plan de bonheur. Mais il y a quelque chose qui revient, le Seigneur qui dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu propose toujours ce plan de bonheur, ce plan de paix à l'homme. C'est maintenant à l'homme de pouvoir lui-même se décider qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à toutes ces merveilles que Dieu a préparées pour lui. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons prendre le verset 25 jusqu'au verset 30. 1 Samuel, chapitre 17, verset 25, jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi qu'elle en fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu y es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Dans ce passage biblique, on est en train de nous parler de l'histoire de David. Il est arrivé au moment où Saoul était sur le trône en Israël, donc il était roi en Israël. Les Philistins se sont levés pour pouvoir combattre le peuple d'Israël. Alors, lorsque Israël avait entendu que les Philistins venaient pour les combattre, et aussi de leur côté, ils se sont préparés pour pouvoir contre-attaquer le Philistin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins avaient au sein de leurs troupes un homme qu'ils appelaient Goliath. Un homme qui se nommait Goliath. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il était un grand, grand, grand géant. Donc vous pourrez aller par après lire le livre de 1 Samuel 17, tous les chapitres, parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir lire tout ça. Il était un grand géant. Donc comme ça, à les regarder, avec à l'œil comme ça, humain, à les regarder, le peuple d'Israël était terrassé. Parce que l'apparence de Goliath, donc Goliath était une personne dont on ne pourrait pas regarder deux ou trois fois. Il était géant. Parce que si nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que lorsque les Philistins se sont approchés près du peuple d'Israël, ils ont dit, nous allons envoyer une personne. Nous allons envoyer une personne devant nous. Vous aussi, vous allez envoyer une autre personne. Et ces deux personnes vont se battre. La personne qui sortira vainqueur, c'est celui-là qui donnera la victoire à sa nation. Donc, comme il présentait Goliath, c'est que si c'est Goliath qui remportait la victoire avec la personne qu'il allait se battre, c'est les Philistins qui vont remporter la victoire. Et si du côté d'Israël, ils envoyaient aussi une autre personne et que cette personne remportait la victoire face à Goliath, c'est cette personne-là qui donnera cette victoire à sa nation. C'était comme ça. Or, la Bible nous fait voir que à chaque fois que cette personne-là de Goliath s'approchait, tellement que c'était une personne de vie comme ça, terrifiante, à chaque fois qu'il s'approchait le peuple d'Israël, il y avait des gens qui couraient. Je me suis posé la question de savoir, mais il était comment ces personnes-là de Goliath? Parce que quand on parle, on dit qu'il fit un géant. Je me suis dit, mais un géant dont, lorsque seulement il faisait avancer ses pas, parce que du côté du peuple d'Israël, il y avait aussi des vaillants soldats. Quand on nous parle de Eliab qui était le frère, l'aîné de David, la Bible nous fait voir lui aussi, il était un géant. Mais regardons, à chaque fois que Goliath s'approchait auprès d'eux, et tous les soldats de l'armée d'Israël, les vaillants de l'armée d'Israël, ils prenaient fuite. À son avancée seulement comme ça, ils prenaient fuite. Personne ne pourrait s'approcher. Et Goliath était là en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il parlait du mal de Dieu. Il disait de n'importe quoi. Et Saoul ne voyait plus ce qu'il pourrait faire. Le roi s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors il dit aux enfants d'Israël que celui qui va combattre avec Goliath et qui va le battre, à cette personne-là, le roi dit qu'il lui donnera sa fille et il va affranchir sa famille. C'est-à-dire qu'il va donner des privilèges à sa famille en Israël. Mais il y avait toujours personne qui pourrait le faire. Il y avait là des gens qui avaient appris la guerre. Il y avait là des vaillants soldats. Il y avait là des gens qui savaient manier des armes. Mais personne n'osait avancer. Parce que l'apparence des Goliath, les terrifier tous. Mais la Bible nous fait voir, il est arrivé un jour, le père de David, comme il avait 3 enfants qui appartenaient dans l'armée de Saül, il a dit à David, va dans le champ de bataille, va apporter à manger à tes frères, après tu vas retourner. Lorsque David est arrivé dans le champ de bataille, il a regardé la scène qui se passait là, ça lui a étonné. Il y avait une personne, à chaque fois que cette personne s'avançait, tout le monde prenait fuite. Il a posé la question de savoir ce qui s'est passé. C'était quoi au juste? Ils ont dit, ben voilà, mais toi tu ne regardes pas. C'est ce géant-là qui est en train de défier tout Israël. Et le roi a même dit que c'est lui qui va les tuer. À cette personne-là, il lui donnera sa fille et il affranchira sa famille. David est allé encore poser la question à une autre personne. Et par après, son frère Eliab l'a entendu, en train de poser des questions comme ça. Et son frère l'a repris. Il a dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je connais comment est-ce que toi tu es. Ce n'est pas pour venir nous donner à manger que tu es venu ici. C'était pour pouvoir voir comment est-ce que la bataille est en train de se passer. Retourne rapidement là où tu as laissé le brebis dans les troupeaux là-bas. Ta place n'est pas ici. Retourne là-bas. Et c'est là que nous allons étudier aujourd'hui quelque chose de très important qui va nous aider à pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Le frère d'Eliab savait que David pourrait faire quelque chose. Il a compris que David il pourrait être capable de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir faire de n'importe quoi. Parce qu'il lui dit que non, je connais ta malice. Je connais comment est les dispositions de ton cœur. Je perds que je puisse, que nous puissions te perdre. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Retourne. Au lieu que David puisse retourner, il n'est pas retourné. La Bible dit, il a laissé son frère de côté, il est parti encore poser la question à une autre personne. Et David avait compris quelque chose, que s'il était arrivé là dans ces champs de bataille, ce n'était pas par hasard. Donc c'est ce que nous avons dit le jeudi dernier, nous allons étudier aujourd'hui comment ça fait que c'est David en arrivant là-bas devrait comprendre que si Dieu l'avait envoyé dans ses champs de bataille, c'était avec un but, avec une mission bien déterminée. La Bible nous fait voir par la suite, il n'est même pas rentré. Il a pris la décision de pouvoir défier Goliath en disant, bon, amenez-moi chez Saül. Moi, je suis capable de pouvoir défier ce Goliath. On a pris David, un petit enfant, un jeune homme. On lui a ramené chez Saül en disant que non, mais voilà, nous avons trouvé cet enfant-ci, ce jeune homme qui a dit que non, lui, il va combattre Goliath. Ah, Saül l'a regardé, il a dit, mais c'est pas possible. Regarde, il y a des vaillants hommes qui sont là. Des vaillants guerriers qui n'arrivent pas. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire car tu ne sais même pas combattre? Tu ne sais même pas manier les armes de guerre. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il a dit, écoute, je vais te dire une chose. Je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai jamais appris comment est-ce qu'on peut manier les armes de guerre. Mais je sais une chose. Nous allons lire ces passages bibliques. 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Là, c'est la réponse de Saül à David. 1 Samuel 17, 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé, et je l'ai tué. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Si Saoul est arrivé à pouvoir accepter la demande de David, parce que David lui a dit quelque chose qui était très profond, quelque chose qui a convaincu le cœur de Saoul. C'est-à-dire que personne, un homme par sa propre force comme ça, ne peut jamais combattre avec un lion, avec un ours. En regardant aussi son âge, il ne pourrait pas le faire. Mais quand il a démontré à Saoul qu'il avait fait toutes ces choses, Saoul a directement compris que ce n'était pas David qui l'a fait par sa propre force, mais c'était Dieu qui l'avait fait en lui. Alléluia. Donc, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse, si nous regardons Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, nous lisons le verset 8 au verset 10. Genèse 49, verset 8 à 10. Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le verset 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ça, c'était les bénédictions de Jacob sur ses enfants avant de mourir. Donc, sur tous ses enfants, sur tous ses 12 enfants, il n'y avait que sur un seul enfant que Jacob a laissé la bénédiction de la royauté. Que c'est sur cet enfant, c'est sur Juda, qu'il y aura un sceptre qui sortira. Et Juda aura une force qui sera extraordinaire. Car Juda sera capable de combattre même les fauves. Car Juda sera une personne qui est violente. Il a fallu que ces promesses de Dieu puissent s'accomplir. Or, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons que David est sorti de la tribu de Juda. Donc si vous regardez les généalogies de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, donc vous verrez que le père de David, Isaïe, lui, il est descendant de la postérité d'Abraham. Il est descendant de la postérité d'Abraham et arrivé à partir de Juda, et c'est par là que le père de David est sorti. Donc, la parole de Dieu devrait s'accomplir sur le tribut de Juda. Donc, le sceptre, la royauté, le pouvoir en Israël devrait être donné au tribut où est sorti David. Donc, c'était quelque chose que Dieu avait déjà prévu. C'était quelque chose qui était dans le plan de Dieu. Et Dieu est parti maintenant à Juda, il a choisi une personne. Et cette personne, c'était David. Or, lorsque Dieu est venu choisir David, il a fallu aussi les signes qu'il avait montrés, qu'il avait donnés, qui va se manifester à la personne qui sera roi dans le tribu de Juda, devrait aussi s'accomplir. David a commencé à combattre des fauves, à combattre des ours, des lions, à leur fermer la gueule, à les récupérer une brebis qui était entre les mains des lions. Pourquoi toute cette force? C'était par l'accomplissement du dessein de Dieu. Donc là, premièrement, c'était par la grâce de Dieu. David était un choix de Dieu. Dieu l'avait choisi pour pouvoir devenir roi en Israël. Alors, donc tous ces gens qui étaient en train de combattre, quand ils ont vu David arriver, personne ne pourrait savoir que c'était cette personne-là que Dieu a choisi qui devrait venir relever le peuple d'Israël. Nous allons continuer cet enseignement parce que nous y arriverons jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à nous aussi. Et il ne savait pas. Quand il est arrivé, tellement que, déjà dans les promesses de Dieu, c'était dit que cette personne-là, quand il arriverait, lui, il ne serait pas une personne qui serait tranquille. Mais ce serait une personne qui serait violente, violente pour pouvoir honorer toujours le nom de Dieu. Et regardez, dès qu'il est arrivé, en voyant seulement les Philistins là, il a dit, mais jamais. Au fond de son cœur, il était plus tranquille. Il était plus calme pour lui. Il a dit, bon, aujourd'hui, je vais faire voir à cette personne qu'on ne peut pas blaguer avec le nom de l'Éternel. Donc, c'était des choses que Dieu a déposées au fond de son cœur. Il a dit qu'aujourd'hui, cette personne, malgré mon âge, mais je sais que Dieu est avec moi. Et Dieu va m'aider à pouvoir renverser cette personne. Mais si vous regardez bien aimé, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Pourquoi d'autres personnes ne pourraient pas avoir cette audace d'aller combattre Goliath? Pourquoi ils n'avaient pas cette audace? Pourquoi ils avaient peur? Pourquoi ils avaient la crainte? Mais dès que lui, il est arrivé, il a cherché à pouvoir changer les situations, à changer les réalités. Que non, les choses ne peuvent pas rester comme ça. Pour Dieu, on ne peut pas insulter le nom de Dieu de cette façon. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Ah, même son frère, il était le jour où on l'avait oint, roi d'Israël, il a vu. Mais qu'est-ce qu'il devrait dire? Maintenant toi, tu deviendras roi, mais ce n'est pas maintenant. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Retourne. Mais comme c'était une personne au fond de son cœur, Dieu avait déjà mis quelque chose qui devrait toujours servir pour la gloire de son nom, il ne pourrait pas se taire. Il ne pourrait pas se taire. Il n'y avait rien qui pourrait l'arrêter. Et vous savez, c'est en Israël, Les droits d'aînesse, c'était quelque chose qui était très respecté. D'ailleurs, si vous regardez, vous verrez que Jacob avait tout fait pour pouvoir voler les droits d'aînesse d'Ésaü. Et Eliab était l'aîné de David. Donc, selon la loi juive, la coutume de Juif, quand il a dit à David, rentre, c'est que David devait rentrer directement. C'était pas quelque chose qu'on pourrait blaguer avec les droits d'aînesse. Mais regardons, c'est David, au lieu de retourner, il n'est pas retourné. Pourquoi selon lui, jamais on ne pourrait pas insulter les noms de Dieu de l'Éternel d'Israël? Il a brûlé même le coutume. Il a tout brûlé. Pour lui, son cœur a commencé à brûler pour pouvoir donner gloire au nom de l'Éternel. Et mais pourquoi tous ces gens qui sont restés ici? Pourquoi tous ces vaillants soldats? Pourquoi ils sont découragés? Saoul, quand il a entendu David, il a dit non. Un enfant ne peut pas dire des choses comme ça. En réalité, si Dieu ne fait pas quelque chose dans son cœur. Saoul a compris qu'au fond de son cœur, il y a quelque chose qui se passe. On lui a dit, bon, prends. Prends les armes, ils sont là. Il les a essayés, il a dit, ah non, moi je connais mon Dieu. Et je sais ce que je fais avec lui. Tout ça, ça ne me servirait à rien. Car ce n'est pas moi qui va combattre. Mais celui qui combattra, c'est l'Éternel. Et si nous lisons dans la parole de Dieu, vous verrez que quand il est arrivé devant le Philistin Goliath, il lui dit, bon voilà, toi, Goliath, tu viens avec toute une armée comme ça contre moi. Mais écoute, moi, David, je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai jamais appris comment combattre. Mais je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec le nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit, les jours que Saoul a vu David en train de se lancer pour aller attaquer Goliath, il a posé la question à Abner, qui était le chef de l'armée, en disant que de qui est ses fils? C'est-à-dire, quand on parlait des fils, à cette époque-là, de celui qui était son père, la personne qui l'avait appris à pouvoir faire des choses. Abner a dit, mais c'est le fils d'Isaïe. Mais je ne pense pas qu'il a un maître qui l'a appris à pouvoir faire la guerre. Il a vu ce courage qu'il avait. Il a vu cette audace qu'il avait. Il a dit, non, c'est pas possible. Comment ça peut faire? Ça peut se faire de cette façon. Or, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons le Seigneur qui dit que, voici, j'ai choisi David, celui qui est l'homme selon mon cœur. Donc, si Dieu n'était pas dans le cœur de David, David ne pourrait pas avoir cette capacité de démontrer la puissance de Dieu. Donc, la différence qui se fait, parce que les autres soldats qui étaient là, ils appartenaient aussi au peuple d'Israël. Ils savaient aussi les promesses de Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas su faire quelque chose? La différence était que, et dans leur cœur, Dieu n'y était pas. Mais Dieu s'est retrouvé dans le cœur de David. Or, lorsque Dieu vient habiter dans le cœur d'une personne, ce ne serait plus cette personne-là qui va maintenant commencer à faire les choses. C'est maintenant Dieu qui va commencer à agir en elle. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je frappe et que celui qui va m'ouvrir son cœur, je viendrai et je vais habiter en lui et nous allons faire la fête ensemble. C'est l'image de ce qui s'est passé dans la vie de David. David avait accepté que le dessein, le promesse de Dieu puisse s'accomplir au fond de son cœur. David s'est laissé conduire, s'est laissé prendre par la volonté de Dieu. Oh oui, Seigneur, me voici, prends-moi, je suis pour toi. Laisse que ta volonté puisse s'exécuter. Laisse que ce que toi tu veux puisse s'exécuter. Et là, je crois, quand les soldats d'Israël qui étaient là, quand il regardait David partir, il n'avait pas une lance, il n'avait rien. Il n'avait qu'une lance-pierre comme ça, qu'il tenait et disait, mais quoi? Cette personne, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a perdu la raison ou quoi? Or qu'en réalité, ce n'était pas lui qui combattait dans cette guerre. Ce n'était pas lui qui combattait. Vous savez que si aujourd'hui, l'échec qui nous est arrivé en étant des chrétiens, nous n'arrivons pas à démontrer que Jésus est le Christ, c'est par rapport à ça. Nous nous appuyons sur nos propres forces. Nous nous appuyons sur nos propres capacités. Nous nous voyons que nous sommes capables à nous-mêmes de pouvoir réaliser les choses. Or là, automatiquement, lorsque nous, c'est nous qui voyons que nous sommes capables, ce n'est plus, là c'est, comment je peux dire, c'est le vieil homme qui va commencer à faire, à agir. Dieu n'y sera pas là. Et en essayant de faire comme ça, on va arriver que, on va constater par après que nous y arriverons à rien. Et que Goliath serait là. Goliath serait là devant nous, mais nous ne saurons jamais avancer. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours quelque chose qui sera devant nous, qui se représentera comme étant un Goliath, qui nous empêcherait de pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons toujours quelque chose qui serait là, qui empêcherait en sorte que la gloire du nom de Dieu puisse se manifester en nous. Il y aura toujours quelque chose qui serait là pour pouvoir empêcher que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et là, en nous-mêmes, humainement parlant, nous serons dans l'impossibilité de pouvoir s'en passer de cela. Nous serons dans l'impossibilité totale. Pourquoi? Parce que l'environnement de David, déjà David, s'il avait écouté son frère, il n'allait pas continuer. S'il avait suivi les coutumes juives, il n'allait pas continuer. Il allait être repris. Donc quelqu'un qui voudra suivre Jésus, quelqu'un qui voudra démontrer la gloire de Jésus, quelqu'un qui voudra démontrer que Jésus est le Christ, il y aurait toujours quelque chose qui se présentera pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Donc la personne voudra, cherchera à pouvoir partir, mais il y aura quelque chose dans le monde qui va les retenir. Il y aura toujours quelque chose qui va le retenir. Si vous regardez, vous verrez que il y a des gens qui commencent la vie avec le Seigneur. Mais du coup, il y aura quelque chose qui va arriver. Automatiquement, ils s'arrêtent avec Dieu. Ils sont retenus. Ils ne peuvent plus avancer. D'autres pourront se dire que non, mais voilà, il y a parce que quand les soldats là qui allaient combattre, ils sont partis aussi avec zèle. Ils disaient, bon voilà, parce que vous savez, quand les soldats se préparent pour la guerre, vous le verrez comme ça, ils sont vraiment capables, avec zèle, qu'ils sont allés combattre. Mais quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, en regardant maintenant Goliath, ils se sont arrêtés. Personne ne pourrait plus avancer. Personne ne pourrait plus avancer. Ils se sont arrêtés là. C'est ce que je disais la fois passée, qui est la vie chrétienne. Quand on parle de la vie chrétienne, c'est une vie de pouvoir porter la croix de Jésus, de se charger de la croix de Jésus-Christ et de le suivre. Oh, quand on parle de la croix de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y aurait des persécutions. Et ces persécutions-là se présenteront comme étant des Goliaths. Qu'il y aurait des choses de plusieurs façons qui se présenteront. Mais si on n'a pas compris pourquoi on peut suivre Jésus-Christ, on y arriverait à un point, on dit, ah non, je ne peux pas avancer. Je ne peux plus avancer, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a Goliath, comme il y a Goliath. Mais moi, je regarde ma capacité à moi, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux plus avancer. Alléluia. C'est pour cela, si vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que quand Dieu parle toujours aux hommes, il leur parle toujours sur le problème de l'intimité, sur le problème de la communion. Il leur parle toujours aussi ce qui consiste leur relation. Il leur parle toujours sur l'état de leur cœur. Parce que l'homme manifestera, démontrera que Jésus est le Christ, moyennant la place qu'il a donnée, qu'il lui a donnée dans son cœur. Ça, je vous l'ai dit la vérité. Donc, si tu as donné à Jésus-Christ une petite partie seulement de ton cœur, une petite, sache-le que dans le monde, tu verras aussi voir qu'une seule petite partie. Donc, si par exemple que dans ton cœur, Jésus-Christ n'est pas vraiment enraciné, toi aussi, dans le monde, tu ne ferais jamais voir que Jésus est le Christ. Et je me suis dit, ça, on verrait ça la semaine prochaine, quand les Seigneur Jésus-Christ qui dit que pour le royaume des cieux, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Pour le royaume des cieux, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Or, nous regardons dans la lignée de David, de la tribu de Juda, où on a dit que Juda sera une personne qui sera violente, le Seigneur Jésus-Christ aussi était compté là, parce qu'il est descendant de David. Or, nous aussi, nous sommes comptés comme étant aussi les descendants de David, à partir d'Abraham, qui s'est accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous devons avoir le même caractéristique qui a été promis, qui a été dit pour le peuple de Juda. Voilà, c'est là où les gens ne comprennent pas. Par exemple, peut-être ils sont en train de suivre Jésus. Oh, je suis chrétien, mais ils ne comprennent pas. Il faut que les caractéristiques de ce qui a été dit du peuple de Juda, de ce qui se passera à Juda, puisse se voir dans la vie de cet homme. Oh, mais non, mais quand quelqu'un qui se dit être chrétien, et que le caractéristique là, que le Seigneur Jésus-Christ est venu même confirmer qu'il faut faire la violence pour entrer dans le royaume des cieux, si ça ne se manifeste pas, il faut vraiment se poser la question de se dire, où suis-je avec Dieu? Donc, la personne qui se trouve, qui est descendant de la tribu de Juda, c'est quelqu'un qui, au fond de son cœur, il n'est pas tranquille pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, ça bouge toujours pour Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester comme ça sans rien faire pour Dieu. Moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on parle de la religion, je regrette beaucoup. On est en train de montrer les gens les chemins de l'enfer sans pour autant les savoir. Parce que c'est que nous devons savoir qu'il y a trois sortes de personnes qui viennent en Jésus. Je dis bien qu'ils viennent en Jésus. Il y en a ceux qui viennent par coutume, par tradition. Nous sommes nés d'une famille qui est chrétienne. Donc la personne a déjà appris l'habitude de chaque dimanche à aller dans l'assemblée, il va dans l'assemblée. Il y en a d'autres, des croyants qui viennent, mais qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne le mettent pas en pratique. C'est-à-dire, ils écoutent la parole, Mais par après, ils ne font pas de ce qu'ils écoutent. Ils ne fournissent pas des efforts pour le mettre en pratique. Et la troisième partie, c'est la partie de ceux-là qui viennent et qui prennent la décision d'abandonner toute leur vie entre les mains de Dieu. De dire que Seigneur, laisse que ta volonté puisse s'accomplir. Plus jamais moi. Plus jamais moi. Mais laisse que ta volonté puisse s'accomplir. Non pas ce que moi je veux faire dans ce monde, mais laisse que ce que toi tu veux puisse se manifester dans ma vie. Alors voilà, c'est cette troisième catégorie qui fait partie maintenant de tribu de Juda. C'est-à-dire qu'il montre les promesses qui ont été données par Jacob sur le tribu de Juda. Violent. David était violent. Le Seigneur Jésus-Christ était violent. Regardons les apôtres de Jésus, ils étaient violents. La Bible dit qu'ils ont même plus fait cas de leur vie. Ils ont regardé leur vie comme ça n'existait plus pour donner gloire au nom de Dieu. Ils ont même décidé de pouvoir sacrifier leur vie. Ils ont même pris la décision de sacrifier leur corps si on va nous tuer. La Bible dit dans les livres d'Hébreux, il y en a d'autres dont on les a sciés. On les a lapidés. On les a crucifiés. Parce qu'ils se sont dit, nous ne sommes pas de n'importe quel rejeton, mais nous sommes des rejetons de la tribu des Juda. Vous savez pourquoi on dit ça? Que Jésus-Christ est le rejeton de la tribu des Juda. Donc si Jésus-Christ est le rejeton de la tribu des Juda, nous aussi, nous sommes les rejetons de la tribu des Juda. Voilà quiconque, écoutez-moi très bien, quiconque qui comprend ça, personne ne pourrait te dire, bien-aimé, viens prier. Personne ne te dira, bien-aimé, va prier. Personne ne te dira, bien-aimé, va évangéliser. Donc, ce sont des choses qui vont se manifester au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que les promesses ont été déjà données. Donc, si la personne accepte que cela puisse se manifester, prend la décision que ça se manifeste dans sa vie, il sera une personne violente par rapport aux choses de Dieu. Donc, c'est que si nous regardons cette personne de David, nous lisons sa vie, vous comprendrez vraiment ce qu'elle était. Donc, c'était une personne qui dormait avec Dieu, qui se réveillait avec Dieu. Donc, pendant tous les temps qu'il était roi, dans son cœur, il n'avait qu'une seule ambition, de donner gloire au nom de Dieu. Lisez dans la Bible, dans les livres des psaumes, vous verrez ça. Vous comprendrez que vraiment c'était une personne qui avait bien compris qu'il devrait entrer dans le dessein de Dieu. Alléluia. Nous allons finir par là. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si nous sommes de la postérité des Juda, nous devons bien comprendre que nous sommes un peuple qui est élu. Nous sommes un peuple qui est choisi pour la félicité éternelle. Nous ne sommes pas un peuple de ce monde pour que nous puissions nous laisser prendre part les distractions de ce monde ou par les intimidations de ce monde. Et voilà, lorsque le Seigneur dit qu'il reviendra, il reviendra sur son peuple. Quel est ce peuple-là de la promesse? C'est le peuple de Juda. Il reviendra soutenir son peuple. Quel peuple? C'est le peuple qui est de la descendance de la tribu de Juda. Donc, là nous comprenons que ce sont ceux-là qui seront des descendants de la tribu de Juda, ceux-là qui seront capables, vraiment capables, de manifester le nom de Jésus, et ce sont ceux-là que Dieu viendra vraiment à leur soutien, viendra vraiment à leur secours. Car Dieu, si vous lisez dans la parole de Dieu, ne soutenait pas tout le peuple. Il y avait plusieurs nations, mais il ne soutenait pas toutes les nations. Il avait qu'une seule nation qu'il venait soutenir. La nation qui lui appartenait. Donc si nous aussi nous nous retrouvons vraiment dans la place que Dieu a placée pour son peuple, il viendra pour nous soutenir. Ah, bien aimé, si vous essayez d'écouter les cantiques qui ont été faites au temps des réveils que nous lisons, des protestants, tout ça, quand vous lisez de ces cantiques-là, vous allez dire, mais non, ces gens avaient compris aussi quelque chose qui nous manque aussi, nous, aujourd'hui. Franchement, nous ne savons pas pourquoi nous suivons Jésus. Nous ne savons pas. Mais essaye d'expliquer à une personne que suivre Jésus-Christ veut dire porter sa croix. Il ne peut pas croire ça. Ah, il te dira non. Non, Jésus-Christ est venu pour pouvoir bénir le peuple. C'est-à-dire que les bénédictions vont tomber, il y aura d'autres qui vont... C'est-à-dire les poches seront pleines. Quand il va sortir, il y en aura pleines. Mais ne parlez pas de la croix. Les gens ne savent pas ça. Or la croix de Jésus, c'est ça, le symbole de la foi, le symbole de la croyance. Celui qui voudront vivre piètement à cause de mon nom seront persécutés. Tu vivras des choses, tu verras des géants, tu verras des Goliaths. Mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu prendras toujours la décision de continuer avec Jésus ou tu l'abandonneras? Vous savez, aujourd'hui, si vous entendez des fois, j'ai entendu des fois d'autres choses, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment que Dieu puisse aider les gens à comprendre. En disant à quelqu'un comme quoi que... Non, si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas un héros, c'est anormal. Il faut entrer dans la prière, il faut faire des choses comme ça. Mais attention, si on essaye de montrer que la vie chrétienne, c'est une vie qui est toute en rose, c'est grave. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ parle de la violence, que pour le royaume des cieux, ce sont les violents qui vont s'en emparer, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux difficultés que tout le monde, sauf personne, va rencontrer ici sur la terre. Et qui sont ceux-là qui demeureront toujours chrétiens au temps où des choses qui sont difficiles, au temps où le malheur arriveront, qui sont ceux-là qui resteront toujours avec Christ, qui sont ceux-là qui continueront toujours la marche avec Jésus. C'est le point que les hommes n'entendent pas beaucoup. Et c'est par là que la vie chrétienne les échappe. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Voyez, donc pour qu'on puisse porter la croix de Jésus, il faut vraiment que nos cœurs puissent être abandonnés complètement, entièrement entre les mains de Dieu. Et quant au reste, c'est le Seigneur qui viendra nous aider, qui viendra nous soutenir. Aucun jour, nous n'abandonnerons le Seigneur. Aucun jour, nous changerons de chaîne. Aucun jour, nous changerons de position. Nous demeurerons toujours chrétiens. Ça dit que partout où tu seras bien-aimé dans le Seigneur, donc les choses de Dieu ne pourront jamais s'en passer de ton cœur. Il n'y a rien aussi qui peut te prendre la place de Jésus. Jésus demeurera toujours dans sa place. Pourquoi? Parce que tu es un choix de Dieu. Parce que tu fais partie du peuple élu ou choisi par Dieu. Oh non, parce que tu vois, le monde s'est devenu comme ça. Tellement qu'il y avait des gens, moi je ne pourrais pas. Et j'ai pas pu continuer le chemin avec Jésus. Ah, tu vois frère, à toi-même tu sais, hein, comment ça se passe en Europe, c'est très difficile. Déjà quand la personne te fait dire comme ça pour te faire voir que, ah, vraiment c'est impossible. C'est pour cela que je ne suis plus chrétien. Comprenez que cette personne ne connaissait pas Jésus. N'avait pas compris pourquoi il était en Jésus-Christ. La Bible dit que dans les bons et les mauvais jours, je te suivrai toujours. Car il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Rien. Ni les moqueries, ni l'ignominie, ni quoi que ce soit. Rien du tout. Mais comme tu es un descendant de la tribu de Juda, sache-le que ton Dieu qui t'a choisi viendra exécuter sa parole sur toi. J'ai regardé dans la Bible, vous trouverez de quelque chose, on pourrait dire, mais le Seigneur Jésus-Christ était une personne comme, il disait des choses comme une personne qui avait perdu la raison ou comment. Un homme, le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé, il lui dit, viens et suis-moi. Cette personne a dit, Seigneur, non, Seigneur, attends un peu. Il y a mon père qui est mort. Laissez-moi tout d'abord aller ensevelir mon père, et puis je reviendrai, je vais te suivre. Écoutez la réponse du Seigneur. Laissez les morts enterrer leur mort. Mais toi, viens et suis-moi. C'est ça le chemin de la croix. C'est qu'on lui a demandé quelque chose qui était au-delà de la capacité humaine. Parce que l'homme n'a pas été fait naturellement à vivre des choses de cette façon. L'homme a été fait à pouvoir vivre comme ça dans la société. À être, à avoir des liens. Mais le Seigneur qui vient, qui dit, laisse-le comme ça et viens et suis-moi. Donc on lui demande de faire une démarche. Humainement parlant, donc on pourrait dire que c'était impossible. Viens et suis-moi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. Vous savez, si David avait accepté à ce jour-là de pouvoir retourner chez son père, leur famille n'allait pas être affranchie. Parce que quand David a tué Goliath, par après, on lui a donné la fille de Saoul, après sa famille a été affranchie. Écoutez maintenant ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez? Donc, Dieu ne sépare pas, mais il vient faire quelque chose pour un temps, mais qui sera un bénéfice par après. Vous comprenez? Donc, il peut te prendre quelque chose qui est très important pour un temps, mais quand il te redonnera, il va te redonner maintenant quelque chose de plus mieux par après. Il devrait désobéir à cette voix de son frère, mais qui par après a produit une bénédiction pour leur famille. Bien-aimé, la vie chrétienne, je le dis toujours, c'est pas comme de la nourriture qui est sur la table et tu montes, tu commences à manger. C'est une vie de consécration. C'est une vie d'engagement. Mais qui par après produirait de la gloire de Dieu? Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Vous verrez, ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ disait humainement par là. Non. L'homme à faire le renoncement de lui-même, tu vas le commencer par où? Les disciples de Jésus ont dit, mais si c'est comme ça, il n'y aurait personne qui sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, Tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Donc, entrons dans la pensée de Dieu sur son peuple. Pour que nous puissions démontrer que Jésus est le Christ, nous devons prendre la décision, une ferme décision, de se donner à Jésus. Quelles que soient les exigences du monde, quelles que soient les distractions du monde, quelles que soient quelque chose qui pourrait nous retenir, mais quand le Seigneur nous appelle, prenons tout d'abord la décision de partir vers lui. Quant au reste, il sait lui ce qu'il va faire. La voix du Seigneur m'appelle, ce que nous allons chanter. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens et suis-moi. Et j'y réponds. Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et le mauvais jour. Dans l'hiver et dans l'été. Dans le printemps et dans l'automne. Dans la disette et dans l'abondance. Dans l'ignominie et dans la gloire. Dans les considérations et dans la considération. Je te suivrai toujours. Je te suivrai toujours. Prends mon cœur, que ce soit pour toi, car j'appartiens à toi, Seigneur. Je ne suis pas de ce monde, mais j'appartiens à toi. Amen. Amen. Nous allons prier.